Chapitre 18. Juin 2017. Kim téléphone à l'inspecteur McCoy à 8h le lundi matin. Il décroche après quelques sonneries. Inspecteur McCoy.
Bonjour, désolé d'appeler si tôt. C'est Kim Knox d'Upfield Common. Je me demandais si vous aviez des nouvelles concernant ma fille Tallulah Murray.
Ah, bonjour Madame Knox. Elle l'entend déplacer des dossiers. Je suis navré, mais pour l'instant je n'ai rien de plus pour vous. Nous sommes allés voir la maison de Upley Fold, nous avons interrogé la famille, mais cela n'a pas ouvert de nouvelles pistes. Ce matin, on va enquêter au village. Deux de mes collègues vont au pub, Elle l'entend feuilleter son rapport. Le Swan and Ducks, pour parler avec le gérant, pour voir si on découvre du nouveau.
Et les bois, vous allez les fouiller? Il n'est pas impossible qu'ils y soient encore, qu'ils aient décidé de rentrer à pied s'ils n'ont pas trouvé de taxi. Peut-être qu'il leur est arrivé quelque chose dans la forêt, qu'ils sont tombés dans un vieux puits par exemple, ou...
Elle inspire profondément. Elle peine à croire qu'elle est sur le point de prononcer ces mots, mais elle n'a pas le choix, c'est important.
Peut-être qu'ils se sont disputés,
poursuit-elle d'une voix précipitée. L'amie de Scarlett, Mimi, m'a dit qu'il y avait eu des tensions pendant la soirée et que Zach lui avait paru assez menaçant. Elle a même affirmé qu'à un moment, il la tenait par les poignets. L'inspecteur cesse de triturer ses papiers.
Je vois. Avez-vous déjà assisté à ce type de comportement par le passé? Quand on a discuté hier, j'ai eu l'impression que c'était des tourtereaux sans histoire.
Elle déteste cette expression. Tourtereaux. La réalité, dit Kim dans un soupir, c'est qu'il est très attaché à elle, vraiment accro. Il est très romantique. Je crois que Tallulah le tolérait plus qu'autre chose. Elle aurait préféré être seule. Mais non, je ne les ai jamais vus se disputer.
Vous n'avez jamais surpris aucune violence entre eux?
Rien. Enfin, Zach peut être caractériel. Mais jamais avec Tallulah, ni avec le bébé.
Selon vous, reprend l'inspecteur qui fait grincer sa chaise en changeant de position, qu'est-ce qui aurait pu être le sujet de cette dispute entre eux vendredi soir?
Kim repense à la bague de fiançailles dans la poche de veste de Zach, à la conversation qu'il a eue avec Ryan où il lui confiait ses intentions. C'est quelque chose de si intime qu'elle a du mal à le partager avec un inconnu, comme si elle trahissait Zach. Mais elle doit le lui dire. Cela pourrait être la clé de leur disparition. Elle en a bien conscience.
Vendredi matin, commence-t-elle d'une voix hésitante, j'ai trouvé un écrin dans la poche de veste de Zach. On aurait dit une bague de fiançailles. Un diamant monté sur un anneau en or. Apparemment, Zach avait fait part à mon fils Ryan de son intention de demander Tallulah en mariage. Hier, je suis allée parler au serveur du Swan and Ducks et il m'a dit qu'ils avaient commandé du champagne avant que Scarlett et ses amis fassent irruption et s'invitent à leur table. C'est possible, je pense, qu'il lui ait fait sa déclaration. Et qu'elle... Elle déglutit difficilement. Et qu'elle ait refusé. Un silence s'installe.
Vous pensez que Zach aurait pu réagir de façon violente? S'enquiert-il.
Je ne sais pas. Mais il n'est pas impossible qu'il se soit disputé en rentrant de chez Scarlett, que Zach se soit énervé et que... qu'il se soit produit un incident. Peut-être qu'il se cache dans les bois maintenant. On ne peut pas exclure cette hypothèse.
Mais en la formulant tout haut, elle sait que ce n'est pas simplement possible, mais probable. C'est un lieu commun. C'est toujours le mari.
Je vois, commente l'inspecteur. Je pense que nous avons assez d'éléments pour organiser une battue. Je m'en occupe, Madame Knox.
Kim.
Oui, Kim. On va s'y mettre très rapidement. Je reviens vers vous au plus vite pour vous tenir au courant des résultats.
On a déjà un peu cherché samedi dans les bois.
Ah bon?
Mais on n'a rien trouvé, bien sûr. Et on n'a rien dérangé non plus, enfin, je pense. Je crois que...
Ce n'est pas grave, l'interrompt-il. Aucun problème. Donc, je reviens vers vous rapidement pour la battue. Et une dernière chose. J'aimerais m'entretenir avec la famille de Zach. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone, une adresse?
Oui, bien sûr,
répond-elle avant de lui communiquer les coordonnées de Megs.
Vous ne leur direz rien, n'est-ce pas? À propos de ce que je vous ai révélé sur Zach. On a un petit-fils en commun. Je ne voudrais pas que la situation s'envenime. Ce serait très difficile à gérer.
Ce serait... Il l'interrompt à nouveau.
Bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Nous serons très discrets.
Merci. Merci beaucoup.
Elle observe Noah en raccrochant. Il est assis dans sa chaise haute et mange des Cheerios. Il la regarde et sourit.
Cirio !
S'exclame-t-il, les yeux brillants de fierté, en montrant du doigt les anneaux d'avoine.
Cirio !
Kim scie et rassemble son courage.
Oui, des Cheerios.
C'est bien, mon ange. Qu'est-ce que tu es intelligent. Sa voix se brise et elle se retourne. Le deuxième mot de Noah. Et Tallulah n'est toujours pas là pour l'entendre. La battue commence à appeler Fold à midi. C'est ce que Kim souhaitait, mais elle est terrorisée. Soudain, tout le monde se mobilise pour retrouver les deux jeunes gens, alors qu'elle a passé des heures à chercher sa fille sans aucune assistance. Elle est effarée. Elle reconnaît Megs et Simon à l'orée du bois et se dirige vers eux. Megs se tourne vers elle, et Kim devine la peur sur son visage habituellement placide. Elle dit quelque chose à son mari, qui lève les yeux vers Kim.
« C'est complètement fou !» murmure Megs quand elle s'approche d'elle. « Je sais que c'est bizarre qu'il ne soit toujours pas rentré, bien sûr, mais quand même !»
Elle esquisse un geste de la main pour montrer la brigade de police équipée de gilets réfléchissants et accompagnée de chiens d'intervention.
« C'est du délire, ça, non ?»
Kim se tait. Elle ne sait pas quoi répondre. « Les enquêteurs sont venus vous parler ?» finit-elle par articuler.
« Oui, c'était n'importe quoi. Ils sont restés chez nous pendant des plombes. Ils ont posé un tas de questions sur Zach, le genre de garçon que c'était, sur son comportement à l'école, au boulot. Je me demande bien pourquoi ils nous ont interrogés là-dessus. C'est comme s'ils le soupçonnaient d'avoir fait quelque chose de mal. »
Elle s'exprime d'une voix calme, mais son regard teinté de reproche n'échappe pas à Kim. Ryan est à la maison avec Noah, et la police a prié les habitants du village de ne pas se joindre aux recherches pour le moment. Il n'y a donc que Kim avec Megs et Simon, les enquêteurs réunis quelques mètres plus loin, et les agents et leurs chiens qui s'organisent à l'orée des bois. Kim a peur et elle est en nage. Il fait encore très chaud aujourd'hui.
« Ça va durer combien de temps ?»
lance Megs aux officiers de police en tenue civile. L'inspecteur McCoy se retourne, adresse un signe de tête à ses collègues et s'approche d'eux.
« On ne sait pas. Ce qui est positif, c'est qu'à cette période de l'année, on a beaucoup de lumière. On va pouvoir mener les investigations jusqu'à la tombée de la nuit. » On poursuivra en fonction de ce qu'on trouve sur le terrain. Une équipe va partir de l'arrière du manoir, c'est par là qu'ils auraient pu aller. Et l'autre va avancer depuis cet accès,
explique-t-il en désignant le portillon qui marque l'entrée de la forêt.
Au cas où ils auraient déjà quitté le domaine avant de décider de couper à travers les bois. On a donc deux équipes qui vont progressivement se séparer pour couvrir le plus de terrain possible.
Et on peut savoir ce que vous cherchez, au juste ?
S'enquiert Megs d'un air irrité.
Vos enfants, Madame Alistair. On cherche Zach et Tallulah.
Il n'y a aucune chance qu'il soit là. Kim a déjà vérifié. S'il y avait quoi que ce soit, elle l'aurait trouvé.
Alors, si vous préférez, on cherche des éléments permettant d'attester que vos enfants sont passés par là, que quelque chose leur est arrivé dans la forêt. On utilisera ces indices pour essayer de reconstituer ce qui s'est produit vendredi soir et découvrir où ils peuvent être aujourd'hui.
Vous feriez mieux de rappeler les compagnies de taxi. Je suis sûre qu'ils n'enregistrent pas la totalité de leurs courses. La femme qui tient celle de Menton passe la moitié de son service à pioncer, la tête sur son bureau. Je vous jure, je l'ai vue. Elle cumule tellement de petits boulots qu'elle n'a pas le temps de dormir. Vous devriez l'interroger. Si ça se trouve, elle leur a envoyé un véhicule sans le noter dans le fichier de la compagnie.
L'inspecteur adresse un sourire patient à Megs. Vous parlez de Carol Dodds de Taxi First, n'est-ce pas? Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec elle à deux reprises. Elle était malade vendredi soir, c'est son mari qui la remplaçait. Il a affirmé que toutes les réservations étaient nécessairement consignées dans leur base de données. Ils ne peuvent pas envoyer de taxi en course sans ça.
Oui, enfin, l'informatique n'a rien d'infaillible. Si l'on commence à faire confiance aux machines...
Donc, vous pensez qu'ils ont pris un taxi, Madame Alistair?
C'est évident.
Et ce taxi, où les aurait-il emmenés?
Ce sont des gamins,
répond-elle vivement.
Qu'est-ce que j'en sais?
L'inspecteur garde son calme.
Bien, les recherches vont commencer. Vous pouvez rester ici et attendre qu'on vous donne des nouvelles, ou on peut se retrouver au village, comme vous préférez.
Kim dévisage Megs, qui hausse les épaules.
Si possible, je préfère rester ici tant que vous êtes là, et aller au village quand ils s'en rapprocheront.
Très bien.
Megs et Simon se regardent.
Nous, on va rentrer à Upfield et attendre là-bas. Au pub, sans doute.
Elle pose la main sur le bras de Kim, la faisant sursauter.
On se rejoint au village.
Ils se dirigent tous ensemble vers la route le long de laquelle sont stationnées les voitures. Megs fait un demi-tour sur le chemin étroit avant de reprendre la route d'Upfield Common. Elle adresse un petit signe à Kim en passant devant elle, et cette dernière le lui rend. La réaction de Megs face à ce cauchemar la glace. Cela ne fait aucun sens. Certes, les parents se tracassent moins pour leur garçon que pour leur fille. Elle est bien placée pour le savoir. Elle a un fils et une fille, et stresse beaucoup moins quand Ryan sort le soir. Mais cela fait déjà 3 jours. Une disparition qui dure aussi longtemps est forcément inquiétante. Pourtant, Megs n'a pas l'air soucieuse le moins du monde. Kim songe un instant que si Megs garde son calme, c'est peut-être parce qu'elle est au courant de quelque chose, parce qu'elle sait que son fils est sain et sauf, mais qu'elle ne peut pas le dire. Non, se reprend-elle immédiatement. Si Megs mentait pour protéger Zack ou la personne responsable de sa disparition, elle ferait au moins semblant d'être préoccupée. Ses réactions sont trop authentiques, trop incompréhensibles. Si elle jouait la comédie, ça sonnerait faux. Kim se détourne et regarde les policiers s'enfoncer dans les bois avec leurs gilets fluorescents et leurs chiens. Les inspecteurs restent un moment à l'orée de la forêt avant de retourner s'installer dans leur voiture. L'atmosphère est étrangement calme. Une auto s'approche. Le couple de personnes âgées à l'intérieur contemple avec curiosité les véhicules de police garés sur le bas-côté et ralentit.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demande le conducteur à un agent.
« Une enquête est en cours.
Encore un cambriolage ?» s'enquiert la dame.
« Non, il s'agit d'une disparition.
Quelqu'un de Playfold ?»«
Non, Upfield Common. »«
Oh, bon courage. J'espère que vous allez le retrouver. » Ils reprennent leur route. Kim consulte son portable. 13h45. Elle écrit à Ryan.
« Tout va bien ?»«
Oui, et de ton côté ?»«
Pour l'instant, ça va. »
Les minutes s'écoulent avec une lenteur insoutenable. Chaque fois qu'elle voit un enquêteur décrocher son téléphone, son sang se fige. Elle s'imagine des dizaines de scénarios dans lesquels Zack finit toujours par tuer sa fille dans les bois. Elle l'imagine en train de l'étrangler, de la plaquer par terre. Elle l'imagine en train de brandir un couteau qui vient peut-être de la cuisine de la maison de Scarlett, de s'approcher d'elle par derrière et de lui trancher la gorge. Elle voit son sang virer au noir en se répandant sur le sol. Elle le voit la rouer de coups, la tabasser, la détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle et que son beau visage soit réduit en bouillie. Elle le voit s'enfuir en titubant, à bout de souffle, les poings meurtris, ensanglantés. Bientôt, l'un des inspecteurs viendra jusqu'à sa voiture, les traits défaits. Il se penchera à la fenêtre qu'elle baissera. Il lui dira qu'ils ont trouvé quelque chose, et elle saura. Elle saura ce qui est arrivé à Tallulah. Mais, pour l'instant, rien. Elle observe. Elle attend.